A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Double vie.
Bonjour, je suis Renée Grezard, je suis journaliste à l'Obs et vous écoutez Double Vie, un podcast dans lequel des femmes et des hommes racontent leur vie cachée, leur vie secrète, leur vie compartimentée. Ce pourrait être votre chef, votre sœur, votre frère ou même votre meilleur ami. Ce pourrait être tout un tas de gens dont vous croyez tout savoir mais qui en réalité jonglent avec les secrets et les normes. Ce pourrait être toutes ces personnes donc. Mais aujourd'hui, dans cet épisode, je suis avec Vincent, un homme de 56 ans, du genre souriant, calme et serein. À chaque fois que je l'ai interviewé, j'ai trouvé Vincent très élégant. Et je dois avouer que j'ai ressenti une forme de léger plaisir à sentir que je pouvais absolument tout lui dire, tout lui demander. Tant et si bien que dans nos échanges, il a pu, je crois, nous arriver de nous charrier, mais sans jamais oublier de nous vouvoyer. C'est de la classe, mais c'est aussi une forme de simplicité, celle d'un homme qui a grandi en pleine nature, à la montagne, et qui ne parle pas pour rien dire.
Mon enfance, je l'ai passée en grande partie aux Arcs, qui est une station de ski en Savoie. Mon père était exploitant de remontées mécaniques, et d'ailleurs je pensais faire ma vie dans cette montagne, devenir moniteur de ski, guide de haute montagne. Voilà. J'ai une enfance heureuse, libre, en contact avec la nature. Et j'ai eu beaucoup de mal à me détacher justement de ce cadre-là. Comme tous les garçons de mon âge, ou presque, j'ai dû quitter mes vallées pour aller dans une vallée un peu plus basse, à Grenoble, y faire des études, y faire Sciences Po Grenoble. Et ensuite, j'ai été amené à faire mon service national, très loin de mes vallées, à Villacoublay, en région parisienne, où j'ai commencé aussi, là, à partir de ce moment-là, à militer, puisque j'étais dans une organisation politique de jeunes militants, voilà, au centre droit. J'étais très européen, avec une fibre social-démocrate, et donc ce segment-là de la vie politique à l'époque me convenait bien.
Ouais, c'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais donc à l'époque, Vincent a une véritable passion pour Valéry Giscard d'Estaing. Vous avez bien entendu, oui, Valéry Giscard d'Estaing, ce bon vieux VGE. Et bizarrement, c'est ça aussi qui va le mener à sa double vie, parce qu'après son service militaire, il reçoit un coup de fil étonnant.
Fin des années 80, on me contacte pour collaborer avec la DGSE. Mon profil les intéresse parce que le mouvement des jeunes de l'UDF entretenait à l'époque des relations privilégiées avec des mouvements d'opposition au régime marxiste, aussi bien en Afrique qu'ailleurs, en Amérique latine, etc. Et donc, il y avait une espèce de parrainage entre nos mouvements, donc j'avais accès à ces organisations-là. Et effectivement, cette connexion intéressait la DGSE. Ça se passe de manière très simple. Quelqu'un m'appelle en me donnant rendez-vous dans un bistrot à Paris, à Saint-Philippe-du-Roule, un café qui existe toujours, qui s'appelle l'Idéal. Je rentre dans le café, quelqu'un m'attend au fond de la salle. On parle de manière de choses très très générales. J'avais dû noter ou transmettre que je parlais couramment l'allemand. À ce moment-là, mon contact me pose une question très précise en allemand. Évidemment, je suis incapable de lui répondre. Et ça me fait rire, lui pas trop. Il me dit simplement, on ne vous enverra pas de l'autre côté, de l'autre côté du mur, voilà, puisqu'à l'époque, le mur de Berlin n'était pas encore tombé. Je me vois redescendre les escaliers du métro Saint-Philippe-du-Roule en me disant, mon choix est fait, mais je vais les faire attendre un tout petit peu tout de même.
La vérité, c'est que Vincent sait immédiatement qu'il va dire oui. De toute manière, il n'aurait pas pu faire autrement. Quand il était petit, il lisait déjà des romans d'espionnage ou des romans d'aventure, comme Le Dernier des Mohicans. Impossible pour lui de refuser une telle proposition. Ce serait trahir l'enfant qu'il a été. Il reprend donc rapidement contact avec les services secrets français.
Je suis en connexion avec un officier traitant, je suis l'un de ses agents. Et petit à petit, je vais travailler avec d'autres membres du groupe qui s'appelle le service mission, dont les objectifs étaient et sont, puisque ce service existe toujours, en fait, le recueil de renseignements sur zone de crise et le soutien aux mouvements de guérilla et aux mouvements armés que la France supporte clandestinement dans le monde. Je suis plus précisément projeté en Afrique centrale et australe, qui vont devenir très rapidement mes terrains de jeu privilégiés. Je vais généralement dans un pays externe à la zone dans laquelle je suis censé me trouver, c'est-à-dire par exemple le Congo, enfin on appelait ça le Zaïre à l'époque, pour aller ensuite en Angola. Donc je prends depuis Kinshasa un petit avion pour clandestinement me rendre en Angola et auprès du mouvement de guérilla. Là je cohabite avec les gens de la guérilla, avec les guérilleros. Je vis avec eux sur le terrain, je suis censé leur apporter donc des aides clandestines de la part de la France. La plupart du temps, je recueille des listes de courses, on appelle ça des listes de courses. Un mouvement de guérilla, il a besoin de tout pour survivre, il a besoin de carburant, il a besoin de moyens de télécommunication, il a évidemment besoin d'armement, mais on a toujours rejeté en fait les demandes d'armement, on a toujours essayé de les aider intelligemment et éviter la livraison notamment d'armement, oui.
Voilà, on est donc en plein dans la France-Afrique, cette ingérence qui a souvent été reprochée à la France. Et Vincent, qui cache sa condition d'espion à ses proches, doit aussi la cacher aux rebelles qu'il côtoie, car il ne doit être démasqué ni d'un côté, ni de l'autre.
Pour mes interlocuteurs sur place, je suis soit un lobbyiste, soit un consultant, soit éventuellement quelqu'un qui leur vend quelque chose. Soi-disant représentant de barbelés. J'avais un catalogue avec 200 variétés de barbelés sud-africains, c'est épouvantable. J'ai une double, une triple et une quadruple vie, oui. Je ne me présente pas de la même manière à eux qu'avec les marchands d'armes et avec tous les commerçants qui gravitent autour de ces mouvements de guérilla, pas tout à fait du moins. Je suis amené à côtoyer des assassins, des criminels de guerre. C'est-à-dire qu'on nous demande d'être compagnons de route de ces mouvements-là, donc d'être au quotidien avec eux, de vivre avec eux, de prendre leurs enfants dans nos bras. Il y a eu un bombardement sur une ville qui était occupée par ce mouvement de guérilla. On a dû tous quitter très vite des habitations et j'ai pris les enfants d'un chef de guerre dans mes bras pour aider les gardes du corps, etc., à vider les lieux très vite. On a peur avec eux, on marche avec eux. On tombe en panne avec eux, on passe des nuits épouvantables avec eux. Et donc, on s'attache à eux, on fait partie de leur famille. C'est un petit peu comme les gens qui sont infiltrés dans la mafia. Et malgré tout, il faut quand même toujours garder en tête ce qu'ils sont eux et ce que je suis moi. Et ça, c'est très important, cette part et cette notion d'intégrité. Si vous n'êtes pas capable de vous ramener à vous-même et de bien savoir qui vous êtes, vous perdez pied. Je pense que quand on a une double vie amoureuse, c'est la même chose. On n'est pas le même avec... son épouse qu'avec sa maîtresse. Entre deux amantes, il faut rester soi-même. C'est un peu la même chose pour un agent de renseignement. Moi, j'ai eu la chance de suivre un mouvement qui était l'UNITA en Angola, qui était peut-être moins violent que d'autres parce qu'il s'appuyait beaucoup sur les populations locales. Mais j'ai approché d'autres chefs de guerre, comme au Mozambique par exemple, où ces mouvements étaient excessivement violents et épouvantablement violents, avec des exactions très lourdes sur les populations locales.
Ce que raconte Vincent me fascine autant que ça me terrifie. Moi qui suis ultra émotive, moi qui ne supporte pas de voir quelqu'un souffrir, je ne comprends pas comment on gère ça. Comment on gère d'être témoin de telles violences ?
Émotionnellement, je dois me détacher de tout ça. C'est-à-dire que je dois faire fi finalement de tout ce qui a nourri mon passé et qui a fait le garçon que je suis à 28, 29, 30 ans. Qui est un passé d'enfant qui a grandi dans une famille de la bourgeoisie moyenne française, avec des règles morales quand même assez élevées, de se retrouver tout à coup en confrontation avec un monde qui n'est pas du tout le sien, qui est un monde de violence, qui est un monde d'immoralité, qui est un monde de bestialité. Par exemple, il y a une chose importante, c'est la confrontation à la violence pure, tout à coup. C'est-à-dire que quand on est à Paris, on peut être le témoin d'une agression dans la rue, mais pas quelqu'un qui se fait tabasser à mort. Ça m'est arrivé une nuit, c'est-à-dire j'étais au quartier général de l'UNITA en Angola et j'ai vu quelqu'un qui avait été martyrisé sortir du quartier où se situait donc le chef. Il était amené ensanglanté un petit peu à l'écart et j'ai compris qu'il allait être exécuté. Et j'ai croisé son regard. Et je pense que là, ça a été le moment le plus terrible, moi, de mes expériences en Afrique. C'est-à-dire que j'ai croisé le regard de quelqu'un pour lequel j'étais peut-être sa dernière chance de salut. Et j'étais incapable de faire quoi que ce soit pour lui, parce que je ne pouvais rien faire pour lui. J'avais pas de lien direct avec les exécuteurs du chef, qui ne savaient même pas qui j'étais, ou... non, je pouvais rien faire, non. Non, moi-même, je me serais mis en grande difficulté ou en danger si j'étais intervenu à ce moment-là. Ce qui est très intéressant, c'est que je n'ai pas été traumatisé tout de suite parce que j'essayais de mettre des écrans, notamment les enfants qui mouraient de faim sur le terrain ou qui étaient en très très grande détresse. Je n'étais pas touché. J'avais un petit peu la psychologie d'un chirurgien ou d'un chirurgien de guerre. C'est-à-dire qu'il doit créer des écrans émotionnels. Et finalement, ces images-là, elles me rattrapent maintenant. Ce ne sont pas des choses dans mon quotidien qui m'agressent, mais qui me préoccupent la nuit, oui. Ou qui reviennent la nuit. Après, plus la situation était chaude, plus la situation était dure. Je dois l'avouer, plus j'aimais ça. Mais j'aimais ça parce que j'avais 30 ans. J'avais énormément d'énergie et aujourd'hui, je serais incapable de supporter ce que j'ai supporté à ce moment-là. Le sentiment qui prédominait, c'était le sentiment de liberté. Quand on s'adonne à des activités illégales ou d'illégalité, finalement, on est plus libre que les autres puisqu'on est moins amené à respecter certaines contraintes, notamment le mensonge. Le mensonge apporte la liberté aussi. Et je comprends finalement le sentiment de liberté que peuvent connaître finalement certains criminels dans leurs activités, c'est-à-dire qu'ils sont libres parce qu'ils sont détachés de toutes les contingences qui peuvent peser sur les épaules d'un individu. Vivre en clandestinité ou en semi-clandestinité, ça a tout de même un côté très très trippant, quoi. J'avais 30 ans, j'étais tout le temps dans les avions, je bouffais des miles, mais je faisais ça avec allégresse. J'adorais ne jamais coucher au même endroit. Voilà, ça faisait partie vraiment des choses très excitantes du job.
Mais du coup, je me demande, comment on rentre chez soi après ça? Comment on rentre chez soi après avoir vécu des moments aussi intenses? Comment on atterrit? Comment on remet ses chaussons de Parisien? Comment on se satisfait d'un simple dîner avec ses amis? Et puis, comment on va au marché le dimanche?
Et c'est vrai que quand je rentrais ensuite à Paris, j'avais l'impression d'une vie étriquée par rapport à celle que je vivais et que je vivais de cette manière. C'est un sentiment qui prévaut aussi dans les doubles vies amoureuses, c'est-à-dire que ce qui est excitant, c'est ce que l'on vit dans la partie cachée, immergée, plus que dans la partie émergée. Et quand je rentre en France, je retrouve donc la partie émergée de l'iceberg, et à l'époque, j'étais marié et je vivais avec une épouse qui était dans le monde du luxe, donc qui vivait plutôt du côté de la place Vendôme et de la rue de la Paix, et qui avait finalement il y avait très peu de connexion avec le monde que je vivais. On allait au cinéma tous les soirs ou presque, au restaurant. J'avais une vie normale quand j'étais à Paris, mais je n'étais pas souvent à Paris. Je lui parle de mes voyages le soir lorsque je rentre, ou lorsque je rentre de mission, mais je lui mens parce que je mens sur les destinations, sur mes activités. Je pense qu'elle se doute de quelque chose, notamment une ou deux nuits où j'ai dû utiliser mon téléphone satellitaire parce qu'il y avait des urgences, donc là elle se rend compte que j'ai une activité qui n'est pas tout à fait normale.
Je ne sais pas vous, mais moi je suis super nulle pour garder un secret. Quand c'est mes amis, pas de souci. Mais dès qu'il s'agit de moi... Je finis toujours par me faire griller ou par lâcher le morceau. Du coup, je ne peux pas m'empêcher de me demander comment diable Vincent a fait pour tenir sa langue toutes ces années. Il n'y a jamais eu un moment où il a eu envie de tout dire à sa femme?
Jamais la tentation de le dire, non. J'étais suffisamment occupé par mon travail, par l'adrénaline, par les soucis que cela pouvait procurer. Et donc non, j'avais pas du tout... Non, j'étais pas dans la nécessité de communiquer à ce sujet. Je n'ai jamais culpabilisé parce que c'était un mensonge nécessaire. Il y a des couples qui se disent tout, je ne suis pas certain que ce soit formidable. Mais je peux prendre l'exemple de couples au sein de la DGSE et qui ne se disent rien, c'est-à-dire qui travaillent dans le même bâtiment. Aucun des deux ne sait vraiment ce que fait l'autre et quand ils se retrouvent chez eux le soir, ils ne se posent pas de questions. Il y a ce qu'on appelle le besoin d'en connaître, le BEC, et ils savent très bien qu'ils n'ont pas besoin de connaître ce que l'autre fait. Alors il y a très peu de couples qui survivent à ça en fait. Je connais peu de gens qui n'ont pas eu leur vie personnelle brisée. Ils ont tous eu des vies très chaotiques, justement en raison de ces compartiments qui est difficile à briser. Avec mon épouse, de fait, c'est vrai de vivre dans des mondes parallèles, mais sans la moindre passerelle, effectivement, ne contribuait pas à une vie commune très facile. Et peut-être que cela a joué dans notre séparation. Je n'ai pas eu d'enfant avec mon épouse, et finalement, c'était plus facile parce que je pense qu'il est plus compliqué de mentir à des enfants. Parce qu'après, ce sont des choses qui sont tellement durables pour lui, qui peuvent tellement rester et ressurgir plus tard, que c'est beaucoup plus grave. La nécessité d'être honnête, est-ce qu'elle prévaut sur la potentialité de faire mal? C'est pas du tout évident, hein. Moi, j'ai préféré, en fait, compartimenter et créer vraiment des murs entre mes mondes.
Quand Vincent parle, on dirait un peu un sage qui raconte ses méditations. Mais concrètement, il réagissait comment quand il se retrouvait dans une situation critique? Du coup, là, je lui ai demandé s'il y avait déjà eu un moment où il avait eu peur pour sa vie.
J'ai été arrêté à la frontière de la Zambie et du Zaïre une fois. Donc, c'est vraiment la seule fois où j'ai vraiment été en difficulté par un service de renseignement intérieur, de sécurité intérieure, donc congolais. En fait, le moment est sensible parce qu'il y a une crise ouverte à ce moment-là, en août 98, entre la République démocratique du Congo et la France. Il y a deux diplomates français qui ont été expulsés à Kinshasa, donc beaucoup plus au nord. Et voilà, le fait d'être français et franchir la frontière à ce moment-là n'est pas chose commune. Et donc, la situation est tendue et on me soupçonne d'être un agent de renseignement français, oui. Je me suis adapté, j'ai été très décontracté, on m'a jeté nu dans un conteneur, mon chauffeur s'est fait tabasser, mais j'étais très décontracté et je m'en suis sorti avec la banane. J'ai raconté que j'étais agent de joueur de football, on était en août 98, la France venait de gagner la Coupe du Monde, et j'ai dit que j'allais superviser, il y avait un tournoi de jeunes à Lubumbashi, qui était la capitale locale, et que j'allais superviser des jeunes joueurs. Et en Afrique, quand on parle football ou musique, ça sauve tout. Donc, le football m'a sauvé, la victoire d'équipe de France m'a sauvé. J'ai dit que j'étais l'agent notamment de Lilian Thuram, mais là, tout d'un coup, c'est formidable. Et j'ai raconté, mais alors là, j'ai menti que j'enverrais 100 ballons signés par les joueurs de l'équipe de France. La dernière anecdote sur cette histoire. Donc, on nous restitue la voiture, on présente des excuses à mon malheureux chauffeur. Et au moment de passer le dernier poste frontière, de revenir en Zambie, puisque de toute manière je n'étais pas amené à aller plus loin, il y a une main qui se pose sur mon épaule, une lourde main, et là je vois un énorme soldat congolais, énorme, une bête, avec une mitrailleuse et la poitrine bardée de cartouchières de munitions de mitrailleuse, me dire « et 1, et 2, et 3, 0 !» C'était après la victoire de l'équipe de France 3-0 contre le Brésil.
Le sang-froid de Vincent semble être à toute épreuve. Il est donc difficile d'imaginer qu'il ait dû mettre un terme à sa double vie. Pourtant, un jour, il y a tout de même eu un bug, ce que j'appelle un caillou dans l'engrenage. Vincent s'est retrouvé au beau milieu d'un scandale et il a dû tout dévoiler sur la place publique.
J'ai été en fait en position de témoin sur l'affaire dite Uramine Areva, donc l'acquisition par Areva de 3 gisements d'uranium en Afrique. Comme j'ai été impliqué dans ce scandale politico-financier, mais en tant que témoin, bien entendu, j'ai été pris en fait dans les filets et de la brigade financière et de vos camarades journalistes. Il a fallu à un moment donné que je fasse mon coming out pour expliquer qui j'étais vraiment. Je pense que c'est comme un coming out pour toute autre personne, c'est-à-dire que ça peut être finalement assez violent. Je l'ai plutôt mal vécu, voilà. Je l'ai vécu un peu comme une trahison par rapport à mon service, mais j'étais obligé de le faire pour éviter que les gens fantasment sur mon rôle et sur mon profil. Voilà, je me sentais à poil, ouais, d'avoir baissé mon caleçon, voilà, tout simplement. Mais c'est compliqué parce qu'on s'est protégé pendant des années, pendant près de 20 ans. On a créé cette espèce de forteresse mentale et tout d'un coup, on fait tomber cette muraille-là. Donc, c'est un peu compliqué. J'ai perdu tout à coup mes pouvoirs extraordinaires. Donc voilà, je suis tout nu, sans ma cape de super-héros tout d'un coup. C'est un peu particulier.
Voilà comment a démarré une nouvelle existence pour Vincent. Une vie où, d'un coup, il n'avait plus à se cacher de son entourage. Pourtant, même là, il a continué de rester flou sur ses activités.
Ce sont toujours des conversations où je livre assez peu de choses. Enfin, je ne rentre pas dans les détails. Je raconte toujours un petit peu les mêmes choses. Donc, je recycle un petit peu toujours les mêmes histoires. D'avoir l'impression que je radote ou que je rabâche. Mais comme j'ai pas envie d'en dire beaucoup plus, voilà, j'en reste. Je me cantonne à une vingtaine d'items à peu près d'histoires bien identifiées. Après, le renseignement est un monde tellement fantasmatique que tout d'un coup, c'est quelque chose d'extraordinaire ou d'exceptionnel. Si demain, je discute avec quelqu'un et je lui dis « oui, mais je suis un ancien agent de renseignement », d'un coup, je vais prendre une part fantasmatique qui n'a pas lieu d'être, en fait. Et cette part fantasmatique, elle a été nourrie par la fiction. Voilà, on a notre imagination qui travaille parce que l'espion, l'agent de renseignement, il a tel contour, il a telle silhouette qui sont des silhouettes fictives. C'est important parce que finalement, c'est la fiction qui crée la puissance de ces mouvements de renseignement. Pendant 20 ans, j'ai été très seul. Et c'est vrai que j'ai appris à cette solitude et j'ai appris à l'aimer, cette solitude, et à la cultiver. Aujourd'hui, les individus ne doivent rien cacher. Et je pense que intrinsèquement, nous devons cacher des choses puisque nous devons nous préserver nous-mêmes. C'est pas de la transgression, c'est naturel de cacher des choses. C'est naturel de cacher des choses aux autres. L'important, c'est de savoir soi-même ce qu'il faut cacher et ce qu'il faut délivrer. Et ce besoin de transparence permanente dans nos sociétés, moi, je suis persuadé qu'il va harasser les individus. Je pense d'abord quand on se connaît soi-même et quand on sait se protéger, on est beaucoup plus capable d'aider les autres et d'être de faire société. Et je pense que l'on perd pied si en permanence, effectivement, on est transparent et on donne tout aux autres. Je pense que s'il y a tant de double vie, finalement, avouée ou inavouée d'ailleurs, hein, parce qu'on peut très bien vivre une double vie sans s'en rendre compte, je pense que c'est ce besoin de dissimulation que l'on a aussi en nous. Le plaisir dans la dissimulation, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. C'est quelque chose voilà, qui est nécessaire.
Pour finir, j'ai demandé à Vincent ce que je demanderais à chaque personne invitée dans ce podcast. Quel est le monde qui aurait permis à ces deux parties d'iceberg de se réunir ?
Rien ne l'aurait permis. C'est indissociable. On ne peut pas contrarier ces deux parties. Et on ne peut pas les réunir. Et heureusement qu'on ne peut pas les réunir. Quand on les réunit, ou quand des conditions les réunissent, ça fait des dégâts. Donc mieux vaut les maintenir étanches.
La théorie de l'iceberg, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, si vous avez de la glace cachée quelque part, écrivez-moi sur Twitter ou sur Instagram. On verra si on peut faire fondre tout ça ensemble.
Cet épisode a été monté par Mao Landaz, réalisé par Julien Bouisset. La musique est de Jocelyn Borda et la direction éditoriale était assurée par Mathieu Aron.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.